Merci Bernard pour cette introduction. Et tu dis qu'il ne faut pas noircir le tableau de la famille. Moi je dis oui, il faudrait le noircir. Parce que la famille est mise à mal aujourd'hui, parce que nos familles, on l'a dit tout de suite, il y a des souffrances, il faut reconnaître ces souffrances, il y a beaucoup de souffrances et on ne sait pas comment faire avec ce qui nous arrive et les circonstances qui sont les nôtres. Au-delà des circonstances douloureuses que toutes les familles de la Terre traversent et peuvent traverser, il y a cette attaque particulière, comme tu le disais, de la part de l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos familles, l'ennemi de l'Église, qui est Satan, qui est l'adversaire, comme dit la parole. Le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Sauf que souvent, nous ne savons pas faire la part des choses. Et nous sommes influencés par toutes sortes de messages que nous recevons. Et on ne sait pas faire la part des choses entre la vérité et ce qu'on peut entendre qui paraît être la vérité. Et nous devons savoir que nos comportements et nos comportements individuels et nos comportements en famille sont directement liés par nos croyances, par notre foi, parce que nous croyons. Mais comment faire la part des choses? Et quand on entend des histoires comme ces deux personnes dans l'avion, on doit prendre conscience que effectivement la famille est la cible de l'ennemi. Et je dirais aussi que nous avons les ressources, nous n'avons pas à avoir honte, parce que nous sommes dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Je reviens d'Afrique, j'ai passé 3 semaines au Burundi, au Rwanda, et il y a une espèce de réalité qu'on ne sent pas ici. Ici, nous avons une espèce de pensée, ou en fin de compte assez rationnelle, et on croit ou on ne croit pas, à chacun sa vérité. On ne s'imagine pas qu'il y a un combat spirituel au-delà des cieux, un combat spirituel qui nous touche et on ne s'en rend pas compte. Or, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et son but était d'aller prendre ceux qui avaient été ravis et de rentrer dans la mort, de se saisir de la mort et de sortir vainqueur de la mort pour être aujourd'hui le Seigneur Jésus vivant et ressuscité qui est le même que hier. Il est aujourd'hui le même que hier, et demain, il sera encore le même. Et celui qui est en nous, dit l'apôtre Jean, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour ça que nous allons parler de la famille, et je vais avoir un tableau très, très large. Je vais parler de la famille nucléaire, évidemment, père, mère, enfant, mais aussi de nos familles élargies. Nous avons tous une famille. Et je vais parler de ces relations et notamment aussi de la famille de Dieu qui est immensément importante, où nos familles ne peuvent pas vivre en autarcie, juste elles pour elles-mêmes, mais elles doivent être incluses dans la famille de Dieu. Et donc, pour cela, si vous voulez bien, on va ouvrir la parole, et je voudrais faire une étude un petit peu détaillée de Colossiens, chapitre 3, au verset 12, jusqu'au verset 15. « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience ou de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Et je voudrais vous montrer, je voudrais que nous puissions ensemble aller dans cette direction que nous ne sommes pas destinés à mal vivre notre famille. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la médiocrité dans nos relations les uns avec les autres. On est appelé à vivre dans cette puissance de Christ ressuscité, vivant aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à être des losers, mais des winners, si les jeunes peuvent me comprendre. Et je voudrais parler aussi particulièrement aux jeunes, parce que vous avez une place dans la famille, et une place primordiale. Mais je voudrais parler aussi aux parents, parce que vous avez aussi une place primordiale. Mais je voudrais parler aussi aux personnes seules, parce que vous aussi, votre place est primordiale. Je voudrais parler aussi peut-être aux grands-parents, parce que votre place, il y aura un atelier sur les différentes générations. Et je voudrais vous montrer que Dieu nous a donné, redonné les compétences, la capacité de marcher dans ses voies et de vivre la famille comme nous sommes, comme il nous appelle à la vivre. Et donc nous allons commencer cette étude, si vous voulez bien, par ce premier terme, revêtez-vous. Prenez un manteau et prenez-le et revêtez-vous de ce manteau-là. C'est un ordre, c'est un impératif. Et Dieu nous donne un ordre, et s'il nous donne des ordres, ça veut dire que nous sommes capables de les vivre. Nous pouvons y répondre et accomplir les ordres qu'il nous donne. Mais où est-ce que je vais, ça c'est la prochaine question, où est-ce que je vais trouver la puissance pour faire ce que Dieu me demande? Dieu me donne un ordre, mais en fin de compte, on dit oui, ça serait très très bien de faire ça, quoi. Mais où est-ce que je vais prendre la force pour accomplir ce que Dieu me demande? Eh bien, la réponse est dans les mots qui suivent. Et ça, c'est, si vous voulez, dans ce passage qui n'est pas si difficile, où on prend ces injonctions, mais on oublie souvent le principal, la base, la clé de ce passage. Eh bien, il est dit, revêtez-vous, alors là, la solution est là, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Parce que vous êtes des élus de Dieu. Ne tirez pas sur vos chaussettes pour être un élu de Dieu et être plus proche de Dieu. Non, vous êtes des élus de Dieu. C'est notre position. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes des saints, nous sommes des bien-aimés. C'est tout à fait différent, donc là, Dieu peut nous donner des ordres. Il ne nous replace pas sous la loi. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Il nous donne des ordres, mais la base est tout à fait différente. Le cœur n'est plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et je voudrais un peu expliquer ces choses-là. Nous ne sommes plus laissés dépendants de nos propres ressources, essayant de nous dépatouiller pour savoir comment est-ce que je peux faire pour être dans la faveur de Dieu. Nous ne sommes plus là. Dieu me place de son côté. Je suis un élu de Dieu. Aussi incroyable que cela peut paraître. Oui, vous et moi. Même si nous avons une très mauvaise image de nous-mêmes. Et vous savez ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la concentration, l'addition, la somme des regards qui ont été posés sur nous depuis tout petit jusqu'à maintenant. Les bons et les mauvais regards. Mais souvent, on retient les mauvais regards qui ont été posés sur nous. Et donc, on a une mauvaise image de nous-mêmes, une fausse image de nous-mêmes. Et là, Dieu est en train de redonner la norme. Il est en train de dire, ce que tu crois n'est pas la vérité. La vérité est ce qui va te libérer, c'est la vérité, c'est mon regard sur toi. Et moi, je te dis, tu es un élu de Dieu. Tu es saint. Tu es bien-aimé. Et vous connaissez le passage, sans la foi, impossible. Impossible. On doit recevoir cela. Comme s'il dit, le Seigneur passait là dans nos rangs et qu'il nous dise, mes enfants, tu veux savoir qui tu es à moi, pour moi, tu es mon élu. Tu es saint et tu es bien-aimé. C'est un petit peu, vous vous rappelez de cette histoire de Méphibosheth, boiteux. Alors que David avait dit, les boiteux n'entreront pas dans Jérusalem. Et voilà, il dit une chose et il fait le contraire. Et tout à coup, il ramène Méphibosheth pour manger à la table du roi tous les jours. On ne parlait plus de son impotence, on ne parlait plus de ses pieds qui n'étaient pas corrects. Non, il était accepté à la table du roi. Et c'est pour nous aussi. Nous sommes saints, c'est-à-dire mis à part pour lui. Nous sommes des chouchous de Dieu. Bon, dommage pour vous, en tout cas, moi, je suis un chouchou de Dieu. Et quelqu'un me dit, dans la salle? Quelqu'un me répète dans la salle? Ouah, merci. T'as tout compris. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu, dans un sens. Nous sommes précieux au cœur de Dieu. Je pourrais vous montrer dans un passage, dans Ézéchiel, nous sommes le parfum agréable de Dieu. Vous voulez faire quoi encore davantage pour avoir de cette faveur de Dieu? Impossible, impossible. Il nous aime. Le problème pour nous, c'est que nous acceptons cette vérité intellectuellement souvent, mais la vivre au quotidien, c'est difficile pour nous. Et je voudrais vraiment que nous puissions aller plus loin pour que cette vérité si pratique, si actuelle, si quotidienne, instant après instant, ça soit notre vie de telle manière que nous sachions qui nous sommes. Et qui va nous dire qui nous sommes? Qui va faire la différence entre les regards qui ont pesé sur moi et sur nous, et puis la vérité de Dieu qui dit qui je suis? C'est lui qui va faire cette différence. Et sa parole. Encore une fois, je vous répète, la Bible, dans Jean, il est dit, c'est la vérité qui nous affranchit. Et donc, la nécessité pour moi que je me saisisse de la vérité. Mais dans un sens, que vous croyez ou pas, ça ne change rien du regard de Dieu sur vous. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne change rien. Le problème, ce qui ça change, c'est que nous allons, dans la mesure où nous ne recevons pas ce regard de Dieu qui est posé sur nous, nous allons continuer à nous traîner dans notre vie chrétienne. Mais du côté de Dieu, ça ne change rien. Il est dit, je suis bien aimé de Dieu. Je voudrais insister, parce que ce n'est pas la peine d'essayer de... Et je refuse de vous donner des recettes par rapport à la vie de famille. Il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça, et tout ça. Et puis en fin de compte, si vous faites ça tous les jours, si vous... Et qui va nous donner la force? Et qui va nous donner la puissance? On est tous d'accord que ces livres sont plus ou moins bons, qu'il y a des choses qui marchent. Mais il n'y a pas forcément la force en moi-même pour, dans les moments critiques, dans les moments difficiles avec ma femme, quand il y a un conflit, et il y en a évidemment, parce que ma femme, vous savez, elle n'est pas là, je peux parler. Elle a un fort caractère, mais moi aussi, donc on ne se laisse pas faire l'un l'autre. Mais ça fait 31 ans que ça dure. Donc, l'espérance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand il y a un moment critique, je peux avoir reçu tous ces préceptes, tous ces enseignements pour bien communiquer, pour gérer les conflits, pour tout quoi. Mais dans le moment critique, j'ai l'impression que j'oublie toutes ces choses-là. Il n'y a qu'une seule personne qui compte, c'est moi, et que je sors vainqueur. Donc ça ne me sert pas à grand-chose, ces livres. Donc qu'est-ce qui va me faire, dans les moments critiques, qu'est-ce qui vont me changer, moi, de telle manière que la situation va se résoudre? Eh bien, je suis bien aimé de Dieu, et je pense que c'est une très bonne base. Nous sommes des élus de Dieu, nous sommes des saints. Que vous le croyez ou non, vous êtes des saints. C'est notre identité. C'est Dieu qui le dit, c'est la vérité, nous sommes des saints et nous sommes des enfants bien-aimés. C'est peut-être la chose que nous recevons le mieux de la part de Dieu, nous sommes des enfants bien-aimés. Mais regardez, nous ne sommes pas seulement des enfants, mais aimés, mais bien-aimés, profondément aimés. Et ça me rappelle les paroles que le Seigneur a reçues le jour de son baptême, sous forme de cette colombe où il est dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir, ou je trouve mon plaisir. » Tu es. Dieu nous désigne, nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas deux comme vous. On a parlé d'ADN tout à l'heure, il n'y en a pas deux comme nous. Tu existes et j'existe pour Dieu. Tu es mon. Il y a cette proximité, il y a cette appartenance. Tu es mon fils, il y a cette filiation. Tu es ma fille. Bien-aimée, pas seulement aimée, mais bien-aimée. Quand est-ce qu'a commencé l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'il nous aime parce qu'on va à la réunion? Est-ce qu'il nous aime parce que nous lisons la Bible? Est-ce qu'il nous aime parce que... Non, il nous aime pourquoi? Il nous aime parce que nous sommes. Parce que nous sommes là, parce que nous existons. Il a voulu notre existence. Psaume 139, avant même que mes os soient mis en place, il me connaissait. J'étais en Afrique la semaine dernière, je suis revenu de Burundi et Rwanda, et on m'a demandé de parler à 200 jeunes de 15 à 18 ans. Et je leur ai raconté ça, qu'ils étaient des êtres uniques avec le psaume 139. Et donc leur destinée était importante aux yeux de Dieu, comme la nôtre aussi. Imaginez les sentiments du Seigneur. En entendant cette parole, lui qui commençait son ministère et qui allait affronter 40 jours de tentation, où le diable allait vraiment l'acculer et lui présenter une tentation, parce que le but de Satan, c'était qu'il ne parvienne pas à la croix. C'était un combat spirituel, c'était pas juste qu'il tombe pour qu'il tombe, mais parce qu'il fallait pas qu'il aille jusque là où il était allé. Et cette parole, imaginez les sentiments du Seigneur, de recevoir cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé, il compte pour Dieu. » Ça, c'est une douceur incroyable. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Tu es mon enfant bien-aimé, tu es un être cher pour moi. Mais ça, ça nous réveille, ça nous fait vivre, ça nous motive, ça nous enthousiasme. On compte pour quelqu'un, on existe pour quelqu'un. Ça, c'est, en fin de compte, tout ce que nous désirons dans notre vie. Mais la cerise sur le gâteau, elle vient après. En toi, je trouve mon plaisir. Et ça, généralement, on a du mal à accepter ça. Alors peut-être vous allez dire, mais Bertrand, tu sais théologiquement que ce n'est pas correct, parce que cette phrase-là, c'était pour le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas. Dernier verset de Jean 17, verset 26, il est dit, « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » On est aimé du même amour que le Seigneur Jésus-Christ était aimé. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous recevez ça? Mais c'est très important, avant même de parler de la famille et de nos relations, parce que si nous avons cette sécurité, si nous avons cette assurance de la part du Seigneur de qui nous sommes, et que rien ne peut nous séparer de son amour, Romains chapitre 8, verset 31 et les suivants, alors on peut marcher dans la famille, on n'est plus dans la compétition avec son épouse, on n'est plus à donner des ordres brutaux et enfermer nos enfants pour qu'ils soient sous la loi et qu'ils nous obéissent au doigt et à l'œil, on peut laisser les autres vivre, on n'est plus les centres de la terre, puisqu'on est aimé, on n'a plus besoin de chercher à être aimé. C'est relax, c'est le repos, c'est le repos. Pourquoi? Parce que j'existe aux yeux de Dieu et je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis en repos. Mais est-ce que vous acceptez cette pensée que nous faisons le plaisir de Dieu? Lisez dans la parole, vous allez voir cela partout. Autant que le Seigneur Jésus-Christ est lui. Et lui, il est le premier-né. Il est l'aîné de la famille, si vous voulez. Mais de la même amour que le Père l'a aimé, il nous aime. Et nous faisons le plaisir de Dieu à ce moment-là. Eh bien, si vous avez du mal à accepter cela, si vous êtes grand-parent et vous voyez votre petit-enfant, entre parenthèses, j'ai pas dit, il était un peu prophétique tout à l'heure, Bernard, j'ai pas dit petits-enfants, mais bientôt 5, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... Mais j'espère que c'était une parole prophétique, c'est pas de problème. Je suis pour. Votre enfant ne fait rien, il fait quand même votre bonheur. Votre petit enfant ne fait rien, il fait quand même votre bonheur. Il est votre plaisir. Mais je dois continuer. Et donc je viens de dire, cette parole est pour nous, et quand je m'en saisis, quand je la prends pour moi, eh bien, elle me met à l'aise. Et elle me fait vivre cette parole. Souvent, nous ne l'acceptons pas parce que nous disons, nous sommes pécheurs, bon, peut-être rachetés. Des pécheurs, comment on dit, sauvés par grâce. Paul ne s'adresse pas aux Corinthiens, à vous les Corinthiens, frères et sœurs bien-aimés, pécheurs sauvés par grâce. Il dit quoi? Vous êtes des saints. Ça, c'est la vérité. Nous ressentons peut-être que dire que nous sommes dans la faveur de Dieu, que dire que nous sommes des saints, c'est se glorifier. Est-ce que nous ne pouvons pas nous glorifier, nous, un petit peu? Allez, un petit peu. Un petit peu. Bien sûr que si. 1 Corinthiens 1, 30. Nous sommes de Dieu, dans le Christ Jésus, qui a été fait pour nous, sagesse, rédemption, c'est peut-être pas dans l'ordre, hein, sainteté et justification, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce que nous ne sommes pas de nous-mêmes, par nous-mêmes, nous sommes ce que nous sommes en Christ. Et ça, c'est la grande différence entre vivre sa vie chrétienne avec nos propres efforts, avec notre kit de survie, où on va essayer de vivre à la hauteur des exigences de Dieu, et puis, cette tranquillité de la vie chrétienne, mais dans la puissance de l'Esprit, vivre parce que nous sommes en Christ, cachés en lui, et les caractères de Jésus-Christ sont les miens. Ce que je suis, c'est ce que Christ est. Je suis caché en lui. Il n'y a plus maintenant une différence entre ce que je ressens et ce que Dieu dit de moi. J'adhère, je reçois par la foi, consciemment, et maintenant je vais vous montrer pratiquement ce que je vis aujourd'hui parce que je suis en Christ. Nous sommes un peu schizophrènes, nous savons dans notre tête que nous sommes en Christ, que Dieu nous voit en Christ, mais nous marchons comme si nous étions encore en Adam, avec nos propres forces. Nous vivons notre vie chrétienne en la portant à bout de bras. Et c'est pour ça que nous sommes, vous et moi, si souvent découragés. Donc on va continuer, si vous voulez. Le regard de Dieu sur moi, je viens de le dire, est le même regard qu'il portait sur Christ quand il était sur la terre. Et maintenant, parce que Dieu a fait de moi, vous voyez, je suis encore sur ces trois premiers termes-là, à cause de ce que Dieu a fait de moi, c'est-à-dire un élu, un saint, un enfant bien-aimé, Dieu maintenant peut me donner des ordres, puisqu'il m'a placé sur une autre base. Et je peux maintenant tirer mes ressources de ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'inventer des stratégies. Je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que la vie divine est en moi. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Si vous lisez dans Pierre, excusez-moi, mais je vais le dire quand même, il a dit, il nous a engendrés, nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire, excusez-moi, mais du sperme de Dieu, c'est exactement le mot dans le grec. Ça veut dire que la vie divine coule en moi. Nous sommes participants de la nature divine. Attendez, c'est fondamental, si nous voulons vivre comme des chrétiens, conduits par l'Esprit, se laissant diriger par le Seigneur, et en nouveauté de vie. Paul va plus loin. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis. Vous connaissez ça par cœur. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est un fait. C'est un fait. Parce que nous avons été identifiés dans la mort de Jésus-Christ. Quand Christ est mort sur la croix, nous étions là. C'est très compliqué, je sais ça, à comprendre. Mais Dieu a une autre notion de temps que la mienne. Lui, quand Christ est mort, il nous voyait déjà en lui. De telle manière que je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Vous acceptez ça? C'est dur, hein? C'est dur à la tête, il faut que ça descende un peu plus bas. Mais c'est de la même foi que vous avez accepté le salut, de la même foi vous acceptez que Christ vit en vous. C'est une autre vérité, mais absolument nécessaire, inséparable. Ce que je vis aujourd'hui, comme je marche là, c'est Christ qui vit en moi. Dans le train, hier, Christ était en moi. Quand je suis avec ma femme, et là on va en venir aux relations familiales, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous avons vu là le thème central de ce week-end? Christ en moi, à quoi ça sert dans ma famille? Quelle est la différence? Mais si Christ est à côté de vous, vous allez toujours continuer à essayer de faire comme le Seigneur veut. Or, la grande ressource pour nous, enfants de Dieu, c'est que Christ nous habite. C'est la grande angoisse des disciples. Vous vous rappelez, Jean 14? La grande angoisse des disciples. Seigneur, tu vas partir et nous, pour le beau rêve de 3 ans, c'est fini, quoi. C'était génial. On a vécu des choses extraordinaires. Je vais pas vous raconter tout ça, vous le connaissez par cœur. Mais maintenant, tu dis que tu vas partir et nous, on devient quoi, là? Tiens, vous en faites pas. C'est même mieux. C'est même mieux parce qu'aujourd'hui, je suis à côté de vous. Mais à ce moment-là, je serai en vous. Et aujourd'hui, il est... Mais vous pouvez prendre cette parole, comme vous avez saisi le salut. Est-ce que vous pouvez prendre cette parole comme vous avez saisi le salut? Ça va faire toute la différence dans notre vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De telle manière que... Et ce que je vis aujourd'hui dans la chair, c'est-à-dire dans mes circonstances d'homme masculin, donc là je vais parler de moi, Bertrand, dans mes circonstances d'homme masculin, de mari, de père, de frère, parce que j'ai aussi une famille élargie et c'est pas toujours facile, et de frère dans l'église, ce que je vis aujourd'hui dans ma chair, dans mes circonstances, je le vis dans la foi, c'est-à-dire dans cette confiance au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais il n'est pas loin. Et oui, il est assis à la droite du Père. Il est assis et il a la prédominance. il est assis, il a toute la gloire et tout genou fléchira devant lui. Mais aujourd'hui, aussi bien il est là, aussi bien il m'habite. Ça veut dire quoi? En termes très pratiques, quand il y a ces conflits entre... Vous avez pensé qu'on est toujours en conflit avec ma femme, mais ce n'est pas tout à fait ça. Hein. On passe des très très bons moments. Et ça veut dire que dans des moments de crise, dans des moments difficiles où on a un enfant qui va mal, où il y a eu la drogue dans la maison, où des circonstances difficiles, la question revient à celle-là. Seigneur, toi et moi, on fait quoi là? Seigneur, toi et moi, on fait quoi? Je ne suis plus seul. Je suis habité par le Seigneur. Au même titre que je me suis beaucoup réjoui quand je me suis converti et que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je pouvais parler du Seigneur à tout le monde et je voulais que tout le monde sache que mes péchés étaient pardonnés. J'avais reçu par la foi cette vérité. Aujourd'hui, je reçois par la foi que Christ habite en moi et que les circonstances qui sont les miennes, les faciles et les difficiles, et il ne nous a jamais dit que nos circonstances seront faciles, je n'ai pas besoin de les traverser seul. Et c'est génial. À quel âge on commence une vie comme ça? 13 ans. 12 ans. À partir du moment où on comprend que le Seigneur Jésus-Christ est vivant pour toujours et que, en fin de compte, j'ai tout à gagner à vivre en collaboration avec lui. C'est une vie de collaboration dans toutes mes circonstances, avec des circonstances difficiles au bureau, dans mon travail, dans les réunions. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Cette vie de collaboration, toutes nos circonstances, Seigneur. Et puis des fois, il y a silence. Je dis bon, je sais pas. Je suis thérapeute familial. Je fais beaucoup d'entretiens de famille, donc pas seulement individuel, mais pas beaucoup individuel en fait. C'est des couples et ou des familles, toute la famille qui vient. Mais les familles sont très complexes. Et vous n'avez pas de solution que vous tirez de votre manche ou de votre poche en disant, bah, tu fais ci, ça, 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 et puis tu verras, ça ira bien. Ça ne marche pas, ça. Le moindre petit problème et vous dépasse de toute façon. Et même si vous le comprenez, vous ne savez pas comment communiquer. Pour que la personne en face de vous ou les personnes en face de vous puissent recevoir cela. Mais je suis constamment dans cette posture. Je dis, Seigneur, là, on fait quoi, là? On fait quoi? Et la chose extraordinaire, extraordinaire, c'est que les idées viennent, que en fin de compte, on s'aperçoit qu'on marche avec le Dieu vivant. C'est ce dont vous avez besoin dans vos familles, c'est ce dont j'ai besoin dans ma famille. Comme disait Bernard tout à l'heure, on a vécu 14 ans en Afrique, on a traversé des circonstances difficiles, très difficiles. Même les frères et sœurs disaient, on ne sait pas comment vous avez survécu en famille. Mais une chose ne m'a jamais quitté, rien, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni vie, ni ange, ni démon, ni mort, ni quoi que ce soit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Seul problème que je vois, c'est que les ressources sont à notre disposition et nous avons du mal à les prendre dans cette foi si simple, la foi d'Abraham dans Romains 4. Et Abraham crut. Et cela lui fut compté à justice. C'est-à-dire pour toujours. Et vous voyez, je disais tout à l'heure que nos comportements sont directement liés avec nos croyances. Il a cru Dieu, et vous voyez dans Romains 4 qu'il commence à louer Dieu. C'est un petit peu si il était dans la perplexité par rapport à cette parole qui a été donnée, par rapport à avoir un fils, il était vieux, et tout à coup, il reçoit cette confirmation, et il se lève. Et là, il éclate en louange et en adorant. Et pourtant, il n'a rien. Il n'a rien. Sa foi se base sur la vérité. Et nous, Paul fait toute cette démonstration pour nous dire, c'est de ce même type de foi que nous sommes appelés à prendre et à nous saisir de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si Christ m'habite, ça veut dire qu'il y a possibilité de changement dans ma vie. Vous savez, on se heurte à des personnes, des croyants, des chrétiens et des chrétiennes qui viennent nous voir et nous dire « Mais je suis désillusionné. J'ai cru que le Seigneur parlait de fleuves d'eau vive qui sort de nos ventres, de nous-mêmes. Ils sont où, ceux-là? Vous y croyez, vous? Dites-moi, vous y croyez à ça? Oui, vous y croyez, c'est le Seigneur qui l'a dit. Ça se passe chez vous? Attends, mais franchement, on n'est pas là pour mettre du chocolat autour des mots, hein? Franchement, dans vos vies, ça pète ou pas? D'accord. Il faut d'abord faire le constat. Il faut d'abord faire le constat. Et puis après, le dire au Seigneur. Seigneur, je ne vis pas ce que tu dis que je devrais vivre. Comment faire? Si vous êtes dans le déni, c'est-à-dire en essayant de dire une chose, mais en sachant que, en fin de compte, c'est pas tout à fait ça, il faut absolument pouvoir mettre les choses sur la table. Le Seigneur est capable de recevoir. Il ne va pas nous aimer moins parce que nous disons des choses vraies. Tout ce qu'il veut, lui, c'est la vérité dans l'homme intérieur. Psaume 51. Vrai, vrai, transparent, sans masque. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'Écriture va vous être ouverte, va s'ouvrir devant vous. Et vous allez saisir chaque parole que le Seigneur dit. J'ai peur parfois que nous, chrétiens, nous ayons accepté l'Écriture comme des principes, comme des dogmes, enfin, mais comme des vérités, comme ça. Et on voit que, en fin de compte, on essaye de faire vivre ces vérités. Mais on a oublié le moteur. On a oublié le moteur. Le moteur, c'est la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre dit, mais moi, je voudrais que vous aimiez le Seigneur. C'est cet attachement au Seigneur qui va faire la différence. Nous aimons une personne. Sinon, on n'est pas mieux que d'autres religions, en fin de compte, où on adhère ou on n'adhère pas à certaines vérités. Voilà. Cette position, donc, dans laquelle me place le Seigneur, je viens de dire que ça nous ouvre au changement. Et maintenant, Dieu peut me donner des ordres, parce que non seulement il me donne des ordres, mais il me donne aussi la compétence, la capacité, la puissance pour mettre cette parole en œuvre. Je n'ai plus un cœur de pierre, j'ai un cœur de chair. Celui qui habite dans mon cœur, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il peut continuer. Et il dit, revêtez-vous de miséricorde. Et donc cet ordre-là de se revêtir de miséricorde. Et là maintenant, on va rentrer dans l'aspect pratique de nos relations familiales. La miséricorde. Se revêtir comme un manteau. Je peux donc exprimer à celui et à ceux qui sont à côté de moi la grâce que j'ai reçue. C'est ça la miséricorde. La grâce que j'ai reçue. On m'a fait grâce. Je n'ai pas reçu ce que je méritais. C'est Christ qui a reçu ce que je méritais. Il a porté en son corps mes péchés. Et la colère de Dieu que je devais avoir est tombée sur lui. Donc je peux exprimer à celui et à celle ou à ceux qui sont autour de moi, dans ma famille, je peux exprimer la miséricorde. La grâce dont je suis l'objet, je peux être aussi gracieux dans ce sens-là, exprimer la miséricorde. Et puis il dit aussi, revêtez-vous de bonté. Et ça, c'est la vie chrétienne au quotidien. Vous rappelez de ce qu'il est dit? Ce qui attire chez un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Dans le monde, ce qui attire chez un homme, c'est souvent autre chose. Mais le fond, c'est de l'attirance. C'est la bonté et cette grâce qui peut être en nous. Et la bonté, ça se cultive. La bonté, ça se travaille. Et ça se décide aussi. Je peux avoir une attitude dure, mais je peux décider d'une attitude de bonté. Il y a une manière de vivre d'avant où je devais me battre pour exister. Puisque Dieu me dit qui je suis, je n'ai plus besoin de me battre. Je peux maintenant exercer la bonté et être bon. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ou bien c'est difficile? Est-ce que ça fait du sens? Avant, je répète ce que je viens de dire. Avant, je me battais pour montrer aux autres que j'existais, d'une manière ou d'une autre, selon ma personnalité. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin. Pourquoi? Parce que je suis accepté par Dieu. Je suis aimé par Dieu, accepté par Dieu, en sécurité. J'ai de l'attention de la part de Dieu. Même à 2 heures du matin, ce matin, 3 heures, je me suis réveillé. juste parce que peut-être à cause de la réunion là. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je leur dis? Et il était là. Il donne un sens, le sens de ma valeur. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Donc, je peux exercer la bonté à ceux qui m'entourent. Il est dit aussi, revêtez-vous d'humilité. C'est le verset 12 toujours, hein? De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience ou de longanimité. L'humilité, c'est pas de mal parler de soi. C'est pas de s'écraser. L'humilité, c'est simplement, dire comme l'apôtre Paul, je sais qui j'ai cru. Et ce que je le suis par la grâce de Dieu. C'est l'humilité. Et l'apôtre Paul dit aussi dans Romains 12, il dit, ayez un juste regard sur vous. Pas au-dessus, pas en dessous non plus. On pense que l'humilité, c'est de s'écraser, de nier notre personnalité. Mais pas du tout. Dieu, justement, donne toute la place à notre personnalité en Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? En Christ. Donc l'orgueil n'est pas obligatoire. Et puis il est dit, revêtez-vous de patience et de support, parce que nous sommes tous différents. Et Dieu veut la différence. C'est ce qui nous pose le plus de problèmes dans nos couples, dans nos familles et dans nos assemblées. La grande famille. Pierre et Dave ont parlé de la vie de couple, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais la différence, nos différences sont peut-être le plus grand problème. Parce que nous avons peur de la différence. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et nous désirons surtout convertir l'autre à voir à travers nos lunettes. Donc changer l'autre. Changer l'autre, ça ne marche pas. Quand vous avez accepté cette vérité qu'on ne peut pas changer l'autre, mais on peut que demander au Seigneur qu'il nous transforme, alors vous avez fait un grand pas. Alors là, vous commencez à vivre en couple, évidemment. Puisque vous allez accepter la différence de l'autre comme une immense richesse. Vous allez dire, vive la différence. Et ma femme m'enrichit de tout ce qu'elle est et de ce que je n'ai pas. Et là, vous allez commencer à vivre parce que, en fin de compte, et vous allez surtout la laisser vivre, je parle aux hommes là, sans essayer de tirer la couverture vous-même en disant, tu dois voir à travers mon prisme, à travers mes lunettes, à travers ce que je crois. Non. C'est fini ça. C'est fini. Et vous allez voir que le respect mutuel va se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous allez respecter votre conjoint dans sa différence. Et vous allez lui permettre de s'exprimer de tout ce qu'elle est ou tout ce qu'il est. Et vous allez voir que, en fin de compte, c'est pas du tout un problème de respect mutuel. Il y aura une soumission mutuelle, comme dit Éphésiens chapitre 5, verset 21. Ce qui n'est pas français. Ou bien pas cartésien. Attendez, la soumission mutuelle, vous avez déjà vu ça quelque part dans le monde? Ça n'a pas de sens. On ne se soumet pas l'un à l'autre. Attendez, c'est quoi ça? S'il y a une soumission, il y a un chef. Eh bien non. L'apôtre Paul dit non. Il y a une soumission mutuelle. Et je pense là, c'est justement dans la différence, nos différences et l'enrichissement que nous avons l'un par l'autre. Je ne vais pas continuer beaucoup dans les différences parce que Pierre va en parler. Je voudrais vous parler de ce que l'apôtre Paul dit ici. Regardez le verset 13. Vous pardonnant les uns les autres ou les uns aux autres si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Et là, je voudrais, ça c'est le plus dur à venir. En fait, c'est notre sujet. Pourquoi? Pourquoi c'est peut-être le sujet le plus difficile? Parce que nous avons tous eu quelqu'un qui nous a fait du tort, qui nous a rejeté, qui nous a pas compris, quelqu'un qui, en fin de compte, qui nous a pas estimé. On a tous été, dans ce sens-là, abusés une fois ou l'autre. Et le pardon, c'est pas humain le pardon. Le pardon, c'est divin. Qui nous a montré le pardon? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas humain. Ce qui est humain, c'est l'excuse. Mais si vous excusez ou si vous recevez une excuse, vous n'avez pas besoin de pardonner puisqu'il y a une justification. La base du pardon, c'est de se souvenir que nous-mêmes, on a été pardonnés pour des choses, écoutez-moi bien, impardonnables. Si vous ne vous souvenez pas que vous étiez en train de vous noyer et que vous avez appelé au secours pour être sauvé et que Dieu vous a pardonné vos fautes, évidemment, si vous avez oublié le pardon de vos fautes et le fait même que nous étions rebellés ou vous étiez rebellés contre Dieu, évidemment, on aura une propension peut-être à ne pas pardonner, puisqu'on aura oublié notre propre pardon. Je répète encore une fois, le pardon est pour quelque chose d'impardonnable. Donc c'est divin. Le pardon est opposé à l'amertume. Et pourtant, l'amertume est une plante dont les racines vont très profond. Et dans nos assemblées, on rompt le pain les uns avec les autres, frères et sœurs. Souvent, j'ai vu ça. On a des histoires. Et on ne sait pas pardonner. Quand est-ce qu'une fois il y aura un culte où avant de prendre le pain et le vin, on va se pardonner? Pourquoi on doit se pardonner? Pour la parole le dit, afin que nous ne donnions pas accès à Satan. Le pardon c'est immensément important. L'amertume va être une conséquence du non-pardon et va tellement s'enraciner que plus le temps va passer, moins on pourra tirer les racines. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Ça va nous empoisonner notre vie. Et ça va plus que empoisonner notre vie, ternir la gloire de Dieu. Or, nous sommes appelés, vous et moi, croyants, petits et grands, jeunes et vieux, notre destinée sur la terre, c'est de glorifier Dieu et de prendre notre plaisir en lui. Et le non-pardon va être ce qui va pourrir nos vies, dans nos familles et dans nos assemblées. La majeure partie du terrain que Satan parvient à gagner sur la vie des chrétiens est due à la rancune. Et c'est son terrain de jeu favori. Et nous devons nous pardonner, donc c'est un impératif, nous devons nous pardonner afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. C'est 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Quand je décide de pardonner, parce que c'est une décision personnelle, quand je décide de pardonner, je laisse agir la justice de Dieu plutôt que de la rendre moi-même. Parce que, humainement parlant, nous pensons que la vengeance est l'arme la plus efficace que nous pouvons avoir contre celui qui m'a offensé. Aussi bien dans la famille. Là, je parle dans la famille, n'est-ce pas? On est toujours là-dedans, dans nos relations familiales. Or, c'est le contraire. Nous pensons que je tiens l'autre qui m'a fait du mal en ne pardonnant pas et en imaginant exercer la vengeance. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je vais parler aux hommes. Vous vous rappelez, 98, Coupe du Monde. Vous vous rappelez? Allez, acceptez. Vous l'avez vu? Bien sûr. Vous vous rappelez, à la fin, l'équipe de France a gagné et les caméramans prenaient l'équipe qui courait vers l'estrade pour recevoir la coupe et tout ça. Et il y avait Aimé Jacquet, le coach, l'entraîneur des Bleus. Et là, il y a un journaliste qui lui pose la question. Monsieur Jacquet, les journalistes vous ont fait beaucoup de mal en contestant les choix de votre équipe. Est-ce que vous leur pardonnez? Et Aimé Jacquet a dit, jamais. Ok. Qu'est-ce que pensait Aimé Jacquet en disant ça? Eh bien, les journalistes, je vais leur faire du mal. Ma vengeance est faite, en fait, que je ne leur pardonne pas. En fin de compte, Aimé Jacquet, il se faisait lui-même encore plus mal en ne pardonnant pas. La vengeance, eh bien, n'est pas du tout une arme possible. Alors, c'est une fausse idée que nous faisons, que je vais exercer la vengeance et que ça va leur faire mal. Il se faisait mal encore une deuxième fois. On lui a fait mal une première fois. Pour se libérer de ce regard-là et de cet abus qu'on lui a fait, il aurait dû exercer là le pardon. Et en fin de compte, il ne l'a pas fait. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que, en fin de compte, le pardon, eh bien, c'est pour moi-même que je vais l'exercer. C'est pour que je sois moi-même libéré. Le pardon n'est pas oublié. Si une circonstance, on la met sous le tapis, ne vous en faites pas, un jour ou l'autre, tout, comme un boomerang, ça va nous revenir dans la figure. Ceux qui essayent d'oublier s'aperçoivent qu'ils en sont incapables et nous devons absolument décider de pardonner. Maintenant, ces quelques points sur le pardon, ça va très vite, on pourrait faire toute une étude sur le pardon. Je veux vous dire que le pardon est un choix. Et là, il est dit, pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Il est dit dans Colossiens, vous pardonnant les uns aux autres. Ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Je dois pardonner. Alors, quand je fais ce travail avec certaines personnes, je ne mets pas la pression, tu dois pardonner aujourd'hui, tu dois. Non. Tu vas à la fin, tu dois travailler sur ce problème-là, mais à la fin, le Seigneur te demande de pardonner et ça sera ta décision. Quand vous pensez à quelqu'un, et je suis sûr qu'en ce moment-là, peut-être vous pensez à une personne où le problème n'a pas été réglé, soit dans votre famille, soit avec quelqu'un d'autre. Si vous dites au Seigneur, si vous priez, Seigneur, aide-moi à pardonner. C'est pas du tout biblique, c'est pas du tout ce qu'il vous demande. Le Seigneur vous dit, pardonnez. Pourquoi il peut nous dire et nous donner cet ordre-là? Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Il est lui-même la puissance du pardon. Il nous donne donc la capacité de pardonner. Donc, il nous rend acteurs de notre vie. Ce n'est pas encore lui qui va pardonner, c'est nous qui allons pardonner. Il nous rend acteurs de notre vie. On n'est pas là simplement dans une idée magique. Non, on n'est pas du tout là-dedans. La parole nous dit, vous avez été pardonné, Christ habite en vous, à votre tour maintenant. Vous savez ce que c'est que le pardon. Donc, allez-y et pardonnez. C'est une obligation parce que, pour toutes les raisons que je vous ai données jusqu'à maintenant. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, vous allez rester lié à eux. Vous me suivez là aussi? Et ce n'est pas la peine. On vous a peut-être offensé. Il faut absolument pardonner pour que vous-même, vous en soyez libéré. Ça ne veut pas dire que la personne à qui vous pardonnez va vous demander pardon. Peut-être cette personne ne vous demandera jamais pardon. Ce n'est pas le problème là. Le problème simplement, c'est de faire votre part. Et après, vous laissez à Dieu le jugement. Vous laissez à Dieu de faire ce qu'il veut. Mais votre côté, c'est nous sommes appelés à être libres. Libres. Et nous avons cette capacité d'accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Et un dernier point, qui était encore difficile peut-être par rapport au pardon, c'est que pardonner, c'est accepter de vivre avec une offense. C'est vivre en subissant les conséquences du péché contre nous. Et je travaille avec des familles très difficiles parfois, et je m'aperçois que des enfants ont été abusés, pas forcément physiquement, mais aussi physiquement, mais abusés par quelqu'un de très autoritaire, ou à l'opposé, des parents qui n'ont jamais mis de règles. Vous voyez, donc on voit des systèmes familiaux qui sont très fermés, où tout est verrouillé, où il faut vraiment marcher comme des petits soldats de plomb. Et puis, il y a d'autres systèmes familiaux ouverts où la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais, et un système et son extrême, ce sont des abus. Et ça provoque et ça génère chez les enfants une colère terrible. Et en fin de compte, ce que nous voyons, c'est que des hommes et des femmes de 35-40 ans qui ne savent pas quoi faire avec cette colère et qui sont en colère contre leurs propres enfants, en fin de compte, cette colère, elle vient de bien plus loin. Et c'est un abus, ça. Ce n'est pas normal qu'on ait... Un enfant, il n'est pas destiné à être abusé de telle manière. Eh bien, quelque part, pardonner, c'est accepter de vivre avec l'offense qu'on nous a faite, avec le péché qui a été commis sur nous. Est-ce que vous me comprenez? C'était très dur, c'est très très dur. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, le pardon, c'est divin. Ce n'est pas humain. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes des élus, parce que vous êtes des saints, parce que vous êtes des enfants bien-aimés, parce que la grande ressource que nous avons aujourd'hui pour vivre nos vies chrétiennes en famille, dans nos familles, parents-enfants, dans la famille élargie, c'est Jésus-Christ vivant dans nos cœurs. C'est possible, même si parfois ça prend du temps. Je n'ai plus le temps d'aller beaucoup plus loin, mais je voudrais terminer et conclure. N'attendez pas d'avoir l'envie de pardonner. Dieu vous dit, pardonne. l'envie ne vous viendra pas. Mais demandez au Seigneur simplement, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Et vous, il vous le dira. Je conclue cet exposé en disant, est-ce que nous pouvons bien vivre dans nos familles? Et je dis oui, nous, croyants, nous avons la ressource, les ressources, pour bien vivre les relations familiales. Je voudrais dire aux plus jeunes, n'attendez pas d'avoir 25 ans ou 30 ans ou 40 ans pour commencer une vie avec le Seigneur. C'est aujourd'hui que ça commence et vous allez grandir dans l'écoute de sa voix. C'est jour après jour que nous grandissons et que nous développons une oreille spirituelle pour entendre la voix du Seigneur. Alors des fois on se trompe, ce n'est pas si grave que ça. On se trompe parce qu'on peut prendre nos propres désirs pour la voix du Seigneur et tout ça, mais ça va se décanter. Ce que je suis en train de dire, c'est que le temps est arrivé pour que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment vivre cette vie cachée avec le Seigneur, au jour le jour, instant après instant. Et vous allez voir que le prince des ténèbres ne pourra rien contre votre famille. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est un discours très général que j'ai eu, mais si nous nous souvenons les uns et les autres que, instant après instant, je peux être en collaboration avec le Maître, avec le Seigneur, eh bien, je crois que on va partir enrichi aujourd'hui. Je vais dire encore une certaine chose. Est-ce que vous considérez votre vie comme une vie ou un appel que le Seigneur vous a fait, et non pas simplement une vie qui va passer et qui va disparaître? Voilà, on aura vécu, on aura fait notre travail, on aura eu... Mais nous sommes les uns et les autres, nous sommes dans la main du Seigneur pour exprimer la vie de Christ là où nous sommes. Chacun notre appel, mais vous êtes missionnaire et je suis missionnaire. Là où le Seigneur nous a placés, d'abord dans notre famille. Ne vous en faites pas, le Seigneur va vous dire ce qu'il veut de vous dans la mesure où vous entretenez cette relation avec lui. Mais les temps sont trop difficiles pour accepter une vie chrétienne au rabais, une vie chrétienne médiocre, où on fait nos actes religieux, je vais dire comme ça, ça vous choque peut-être, mais souvent c'est comme ça. Le Seigneur veut développer chez nous une vraie relation et il va vous conduire vers des choses extraordinaires. Extraordinaires. Que si vous vouliez les faire, vous ne pourriez pas les faire. Et vous le saurez dans le secret de votre cœur. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui va être su, mais vous allez voir la conduite de Dieu moment après moment après moment et vous allez dire, c'est extraordinaire de marcher avec le Seigneur. J'ai terminé. On peut prier ensemble si vous voulez bien.